J'avais envie de vous parler ce soir du fait que l'éthique, ça pouvait être des choix très concrets et très quotidiens, qui nous concernent tous au travail. Et je vais vous parler en particulier, moi, de ce qui me concerne, c'est-à-dire l'éthique dans le domaine culturel. Je le fais en tant que médiateur culturel, j'ai travaillé en musée et en festival. J'ai envie de vous partager des pensées autour de ce qu'est une culture légitime, un sujet auquel je réfléchis depuis mes études. Et puis depuis maintenant un an, j'exerce mon travail de médiateur dans une médiathèque municipale. Ça m'a beaucoup intéressé de découvrir la façon dont ça remue ces questions éthiques en nous quand on touche aux livres et quand on décide de promouvoir la lecture, de faire connaître les livres, de donner envie à des nouvelles générations d'enfants d'ouvrir les livres et la question de quels livres aussi. Et pour résumer mon propos, je voulais vous raconter qu'être bibliothécaire, c'est aussi faire des choix et vous raconter comment on les fait. Alors pour présenter un peu la situation générale, on vit en France dans un pays qui a mis en place, qui a défendu des politiques culturelles depuis très très longtemps. Et ça a permis de développer tout un maillage de musées, de centres culturels, de salles de spectacle, de bibliothèques. On trouve sur le territoire plus de 15 500 bibliothèques et médiathèques. Mais on y a ajouté, avec le temps, d'autres droits qui en dérivaient, qui semblaient logiques quand on voulait aller toujours vers plus d'égalité. On a parlé de droits économiques, sociaux et culturels, qu'on connaît moins et qui ont fait l'objet de travaux et de déclarations dans le dernier demi-siècle. L'idée des droits culturels, c'est que tout le monde, chaque personne, a le droit d'être reconnue dans son identité culturelle. Elle a le droit d'accéder à la culture, mais elle a aussi le droit de participer à la vie culturelle, de créer, le droit à l'éducation, le droit à la formation et à l'information. Mais chaque personne a aussi le droit que la culture reflète son identité, qu'elle retrouve justement dans les lieux culturels quelque chose qui lui parle, quelque chose de sa communauté, quelque chose de sa langue, quelque chose de sa religion. Et les bibliothèques dans les dernières décennies donc, ont été très marquées par cette question, celle de savoir si on ne transmettait qu'une culture dominante, légitime, ou si on parvenait à prendre du recul vis-à-vis de celle-ci. Et est-ce qu'on arrive à refléter dans nos rayonnages une société multiculturelle? Et refléter cette société, c'est déjà un défi, ne serait-ce que de refléter justement le sexe et le genre. En observant les bibliothèques, les personnes qui s'y rendent et les personnes qui y travaillent, on voit que c'est un environnement majoritairement féminin. Ça a des explications que des sociologues ont pu observer, que c'est une habitude qui s'ancre très tôt, dès l'enfance. Il y a des stéréotypes de genre qui vont pousser les filles à se sentir plus à l'aise dans les bibliothèques que les garçons. Parce qu'on habitue les filles déjà très tôt à un contrôle de soi. On les envoie lire des livres pour s'occuper, alors que on va envoyer les garçons se défouler dehors. Et les bibliothèques, c'est un lieu avec des règles, pas mal de règles qui ont un rapport avec le contrôle de soi aussi, ce qui va attirer davantage les femmes. Mais à l'inverse, les rayonnages des librairies et des bibliothèques favorisent les auteurs masculins si on ne fait rien pour inverser la tendance. Alors vous me direz, c'est aussi en train de changer la proportion de livres écrits par les hommes et écrits par les femmes. Change, mais aussi la façon dont c'est valorisé dans les médias, il y a toujours un avantage aux auteurs masculins. Donc, si les bibliothèques n'ont pas cet enjeu, eh ben, enfin, c'est un enjeu, disons, d'arriver à la fois à la parité homme-femme dans nos collections et aussi de faire venir les hommes dans les bibliothèques. Et puis, parmi les droits culturels, ce n'est pas que le droit de recevoir la culture qu'il faut faire valoir, c'est aussi d'y participer. Et je crois que c'est un point sur lequel les bibliothèques ont beaucoup à offrir. Parce que je repense à mon activité de médiateur en musée et en festival, et je me suis fait la réflexion que mon travail de médiateur a souvent été d'expliquer le choix de quelqu'un d'autre. Le choix d'un artiste qui vous présentait une œuvre, le choix d'un programmateur ou d'une programmatrice qui avait fait toute la programmation d'un festival, ou le choix d'un commissaire d'exposition. Et en bibliothèque, au contraire, depuis que je travaille là-dedans, c'est souvent mes choix que je défends. On voit que les choix d'achat de livres ne sont pas confiés à juste une seule personne, c'est réparti entre les bibliothécaires qui ont chacun des fonds. Et plus encore, le retour des usagers, les carnets de suggestions, les clubs de lecture, ce sont des outils qui sont là depuis longtemps, des pratiques bien ancrées dans ces lieux pour ouvrir la participation à toutes et tous. C'est donc important, et je crois que c'est au cœur de mon travail, de savoir prendre du recul et d'arrêter d'être prescripteur de ce que vous allez lire. Cherchez au contraire à remettre en question ma culture pour écouter celle de l'autre. Parce qu'on ne doute pas un instant, évidemment, que les bibliothécaires sont des personnes qui sont engagées pour leur culture. Mais ce n'est pas n'importe quelle culture. C'est une culture littéraire dont on parle, la culture officielle, la culture légitime, celle qui est portée par des institutions prestigieuses, par des prix littéraires. Nous avons appris à reconnaître la culture légitime, qui est une culture qui se produit de la distinction sociale. C'est souvent inconscient. On parle de défendre des livres qui nous ont plu, de défendre notre goût, mais la construction du goût, c'est aussi une construction sociale. Derrière le coup de cœur, il y a des codes culturels acquis. Il y a une culture illégitime et on a besoin de la déconstruire. D'ailleurs, déconstruire des préjugés en littérature, ça peut passer par des exercices très simples. En sociologie, justement, on s'est intéressé à ce que les gens disaient des livres qu'ils avaient chez eux. On leur demandait combien de livres ils avaient chez eux, et on se rendait compte qu'ils ne comptaient pas tous les livres. On oubliait de compter les dictionnaires, on oubliait de compter les livres de cuisine, mais aussi les romans harlequins, où parfois on préférait ne pas les compter. Alors, qu'est-ce que c'est les cultures légitimes en littérature? C'est déjà qu'il y a des livres dont la culture littéraire fait l'écho et d'autres pas. Dans la critique littéraire, on se rend compte que même dans les livres de fiction, tous les genres n'ont pas la même place. Ce qu'on appelle la littérature blanche, la littérature la plus valorisée, les auteurs à la mode, ceux qui reçoivent les prix littéraires et qu'on met en avant dans les médias. Et puis, plein de genres qui échappent en grande partie à cette critique, les mauvais genres. Vous avez les romans sentimentaux, les romans policiers, qui peuvent être de grands succès, mais qu'on ne chroniquera pas sur France Culture dans Le Masque et la Plume. Aussi, entre succès de vente et mépris mondain, vous avez les romans du terroir. Ce sont ces séries de livres qui racontent des grandes sagas familiales. Ça marche très très bien. Travailler en bibliothèque ou en librairie, ça vous fait prendre conscience vraiment du succès de ce genre. Voilà, c'est quelque chose dont on parle aussi assez peu. On parle assez peu de justement ces auteurs qui vendent énormément. Vous avez aussi les littératures de l'imaginaire, la science-fiction, la fantasy, le fantastique, qui ont longtemps été dans les mauvais genres, même si ça s'améliore un petit peu. La science-fiction, on la commente un peu parce qu'on sait reconnaître un contenu politique, mais la fantasy, ça reste encore pas mal ignoré par la critique. Et parler de mauvais genres, ça m'amène à vous parler d'un cas éthique très concret qui nous interroge en ce moment entre bibliothécaires, c'est la dark romance. Dark romance, si vous ne la connaissez pas, c'est un véritable phénomène de librairie dont vous connaissez peut-être certains titres qui l'ont inspiré, comme Twilight ou Fifty Shades of Grey. La dark romance est un sous-genre récent de la littérature sentimentale. Alors, la littérature sentimentale, je l'ai dit, souffre déjà d'une mauvaise réputation, avec les arguments qu'on entend généralement, une culture non légitime, une faiblesse littéraire, jugée trop populaire ou même pire, féminine. Ce qui n'a jamais empêché son succès, mais c'est aussi une littérature dont tout ne se vante pas. La dark romance a déjà tous ses défauts et en plus elle pose un problème moral. Dans les livres de dark romance, on retrouve souvent un schéma assez récurrent. C'est l'histoire d'une chaste héroïne qui tombe amoureuse d'un mauvais garçon qui est un terrible chef de gang ou odieux PDG et qui va exprimer toute sa violence en la séquestrant, en la manipulant, en exerçant une violence physique. Mais à la fin, l'héroïne trouve le moyen de fendre l'armure et de transformer la bête en prince charmant. C'est une littérature qui est lue, écrite par des jeunes générations et elle suscite l'inquiétude parce qu'on se demande si on peut laisser à disposition des jeunes esprits des livres avec ce niveau de violence, cet érotisme et aussi qui vont à l'encontre de convictions féministes qu'on a. Pour des personnes de ma génération, c'est très compliqué. On s'est battu pour faire admettre dans la société qu'il n'y avait aucune violence conjugale acceptable, pour faire reconnaître les signes de cette violence. Est-ce qu'on peut accepter que des adolescentes aiment vivre des récits qui racontent qu'en restant patiente et chaste, l'héroïne peut transformer son barbe bleue en grand amour? Si vous n'étiez pas au courant, vous dites « mais les ados lisent ça, mais quelle catastrophe !» Évidemment qu'on ne va pas laisser ça à portée de jeunes personnes influençables. Mais en fait, c'est compliqué. Ces livres, déjà, souvent, parce que on m'a appris que c'était pas un bon style littéraire, je les ai pas lus. Et je me fais un avis sur leur réputation. Une réponse courte pour moi bibliothécaire, ça peut être de dire qu'en effet, je ne me sens pas de défendre cette place dans mes collections, donc je les achèterai pas. On est face à un phénomène nouveau sur lequel on manque de recul et on fait le choix de s'abstenir plutôt que d'avoir des ouvrages polémiques. Mais on commence petit à petit à construire ce recul. On a des chercheuses et des chercheurs en littérature qui ont commencé à travailler sur les contenus de la dark romance ou sur la façon dont ils sont lus, sur ce que ça produit chez les lecteurs et les lectrices. Et la dark romance, que sa forme nous plaise ou non, révèle en fait quelque chose de la façon dont de jeunes autrices et de jeunes lecteurs se projettent dans la sexualité. De la façon dont elles expriment de manière très explicite la violence du couple, des schémas patriarcaux, de la domination masculine, et la façon dont elles élaborent aussi des stratégies pour, à défaut d'en triompher, au moins se protéger de cette violence. Et si ça vous fait penser à certains contes du petit chaperon rouge à barbe bleue, bah c'est pas anodin. Donc, on a des bibliothèques qui aujourd'hui font le choix d'acquérir ces livres dans ces fonds, déjà parce qu'ils sont demandés, et puis qui réfléchissent à quels avertissements mentionner avant de les proposer. Et ensuite, parce que ça peut être l'occasion, justement, dans le lieu bibliothèque, de réunir des personnes qui les lisent, d'en discuter après la lecture, et puis d'enchaîner éventuellement sur d'autres livres qui apportent d'autres points de vue. Et si c'était le seul rayon compliqué, alors mon travail serait super facile. Mais vous doutez qu'il y a d'autres sujets qui font polémique par nature. Et je reviendrai un petit peu sur les livres politiques. C'est un débat qui revient aussi souvent entre collègues. Est-ce que vous achetez les livres politiques ? Et c'est pas non plus un rayon facile. Les livres politiques ont déjà le défaut d'être des ouvrages qui vieillissent très mal dans le temps. Est-ce que vous avez envie de lire le livre de tel leader de parti politique qui a été écrit il y a 2 ans ? Non, pas vraiment. Les livres en question déjà se vendent mal en librairie, à quelques dizaines ou centaines d'exemplaires, et on n'a qu'une poignée qui se vendent correctement chaque année. Mais des fois, un livre fait parler de lui, se vend bien, et on vous le demande. Mais qu'est-ce que vous faites quand les usagers vous demandent le dernier livre d'Éric Zemmour ? Et à nouveau, on doit faire des choix et les justifier. Pour des bibliothèques publiques, il est tout à fait possible de proposer un rayon politique, mais ça nous demande de garantir une pluralité d'opinions. Beaucoup de bibliothèques, évidemment les plus petites, préfèrent renoncer à ce rayon parce que c'est trop compliqué. C'est pas assez vendeur, c'est trop clivant. Des fois aussi, on justifie autrement. Pour Éric Zemmour en particulier, ça peut être un choix volontaire justifié par le fait que l'auteur a été plusieurs fois condamné pour injure publique, diffamation, provocation à la discrimination raciale et à la haine religieuse, qu'on ne veut donc pas proposer un contenu susceptible d'être injurieux et contraire aux valeurs qui nous sont chères. Mais il y a des bibliothèques aussi où vous trouverez ces livres. Ce n'est pas forcément une recommandation de la part des bibliothécaires, ça peut être le fait que ce livre a son public et qu'il n'appartient pas aux bibliothécaires de juger cet usage. Il est probablement nécessaire que ces livres soient disponibles. Personnellement, en tant que lecteur, je vais aussi lire des livres que je n'aime pas, ça m'arrive, pour me faire mon propre avis, et je préfère dans ce cas aussi ne pas avoir à les payer ni donner l'argent à leur auteur. Donc je suis bien content d'aller pouvoir les chercher dans les bibliothèques. J'arrive à ma conclusion. Et donc en résumé, tous ces choix d'achat, de non-achat, de désherbage sont des choix très pratiques qu'on est amené à justifier aussi bien à nos usagers qu'à nos instances de tutelle. En réfléchissant à cette intervention, j'étais parti d'une question un peu provocatrice. Est-ce que ce sont les bibliothécaires qui choisissent les livres que vous lirez en bibliothèque ? Est-ce qu'on fait ce choix à votre place ? Donc ce petit témoignage n'était pas là pour dire qu'il faut faire confiance aux bibliothécaires, comme si on avait toute la culture nécessaire, la distance face à nos préjugés, ou les codes moraux ajustés, ou les outils de médiation adaptés pour vous garantir qu'on fait les bons choix. Ça, on ne pourra jamais vous le promettre, pas plus que je pourrais vous dire qu'on en fait des mauvais. Mais ça visait plutôt à dire qu'on n'a en fait jamais fini de revenir sur les choix passés, que je crois que c'est au cœur de l'éthique, en fait, que les choix d'un jour, on les remet en question le lendemain, et que c'est aussi ce qui rend notre travail intéressant. Et puisqu'on parlait de cette nuit des valeurs qui guident notre communauté et notre nation, je crois qu'il est important d'affirmer très fort que l'accès à la culture et de participer à la culture, ça ne peut pas être des droits optionnels. Je vous remercie.